Luc chapitre 2, versets 22 à 40. Luc chapitre 2, versets 22 à 40. Au nom de Jésus. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant dans la ville de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Ils offrirent aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était bon. Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple et quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, ta promesse est réalisée. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et donnera de la gloire à Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a choisi cet enfant pour causer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les hommes s'opposeront. Et il fera ainsi apparaître en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Et quant à toi, femme, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis demeurée veuve. Elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Et quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Et l'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu était avec lui. Amen. Chers amis, nous venons de passer les fêtes de Noël, une commémoration annuelle de la venue du Messie. Je dis bien commémoration, mais pas la date d'anniversaire qu'on a choisie. Le Fils de Dieu, le Christ, ou encore celui qui est oint. En d'autres mots, l'élu, celui qui est choisi, qui est désigné par Dieu. Il est l'envoyé du Père. Mais cette onction christologique n'est pas restée secrète entre le Père et le Fils. Elle a été montrée et vue par tout le monde, par plusieurs témoins. Et tous ces témoins, en quelque sorte, ont validé publiquement qu'il a été l'élu du Père. Les deux témoins, en la personne de Siméon et d'Anne, qui ont rendu témoignage de l'enfant le jour de la présentation de Jésus au temple, c'est-à-dire pour se faire circoncire. Ce qui a captivé, moi personnellement, mon attention, c'est cette succession de témoignages pour confirmer, reconfirmer ce qui a été annoncé dans les cieux et qui est confirmé ici-bas par deux individus. Si on fait une sorte de récapitulation depuis la fête de Noël sur l'annonce de la messianité de Jésus, cela a commencé par l'ange Gabriel. Ensuite, il y avait Élisabeth qui a rencontré Marie. Et c'est juste au moment-là que l'enfant a bougé en elle, Jean-Baptiste, qui a reconnu le Christ en Marie. Le soir de la naissance de Jésus, les anges du ciel qui louaient Dieu devant les bergers, ensuite les bergers qui reçoivent le relais et qui partent à Bethléem, et ces derniers qui aussi à leur tour venaient aussi pour voir l'enfant. Et ce n'est pas terminé, il y a des tas de témoins. L'étoile, même les astres témoignent le Fils de Dieu. L'étoile qui mena les rois mages vers l'enfant et les rois mages qui prennent le relais et s'agenouillaient devant l'enfant. Et enfin ici, dans notre texte, deux personnes qui n'ont jamais vu, ici c'est différent par rapport aux bergers, par rapport aux mages qui ont vu, mais ils n'ont jamais vu Marie et Joseph et l'enfant, mais ils l'ont su par la foi. C'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Genèse, ils n'ont jamais vu, mais ils l'ont cru. Et c'est ça qui a ouvert leurs yeux, la foi qui ouvre les yeux. Ils ont su par prophétie que cet enfant qui était devant eux était le Messie qu'ils attendaient. D'où le Christ aurait pu se passer de tous ces témoignages, de toutes ces personnes, car son ministère ne dépend de personne, ne dépend pas de l'homme. Il le tient de son Père. Mais voilà l'humilité de l'enfant de Dieu. Il veut démontrer au monde entier qu'il n'est pas un Messie autoproclamé dans le ciel, ni un Messie proclamé que par ses proches, par sa famille, par ses connaissances. Et depuis sa naissance, depuis sa venue au monde, les êtres divins annoncent sa venue, la création annonce sa venue, les textes même consultés par ses détracteurs, les scribes, qui ont annoncé à Hérode qu'un enfant va naître à Bethléem, des gens d'Orient, les bergers d'Israël, et enfin ces deux personnes âgées qui font que reconfirmer ce qui a été dit dans le ciel. Voilà ce qui est dit, ce qui est caché sera révélé. Ce qui était dans le ciel est révélé ici-bas, le voici Jésus-Christ. Jésus avait parlé dans ce sens lorsque les pharisiens ont voulu le piéger, quand ils l'ont posé la question, de quel droit fais-tu ces choses, rappelez-vous? Qui t'a donné autorité pour les faire? Et Jésus leur répondit, je vais vous poser une question, une seule question. Si vous me donnez une réponse, alors je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean-Baptiste? Est-ce Dieu ou les hommes? Répondez-moi. Mais ils se mirent à discuter entre eux et se dirent, si nous répondons c'est Dieu qui l'a envoyé, il nous demandera, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à Jean? Tous ces témoins étaient là pour confirmer. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, pour dire que si Jésus est proclamé Messie, Fils de Dieu, cela n'a pas été juste tombé du ciel et que nous devrions croire ou pas, contrairement aux autres religions qui existent au monde. Ce n'est pas une chose qui est tombée du ciel comme ça, tout simplement. Il nous donne des références concrètes, des panneaux d'indication pour nous rassurer qu'il est vraiment le Messie. Et quand on voit toutes ces personnes avant nous, ceux qui ont connu Jésus et qui l'ont accepté comme leur sauveur et leur maître, malgré leur place et leurs rangs sociaux, malgré leur histoire et leur parcours de vie, forcément, nous aujourd'hui aussi, on n'a pas vu Jésus. Mais nous sommes obligés à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Jésus, s'il arrive à mobiliser le ciel et la terre, les astres et les hommes, pour venir à ses pieds à Bethléem. Oui, le témoignage est un atout de taille très important dans notre vie chrétienne, car selon moi, il sert de passerelle entre la personne à qui on rend témoignage et la parole prêchée sur cette personne. Il est difficile aux gens de comprendre ce que nous croyons s'il n'y a pas un témoignage réel, concret. C'est pour ça que c'est une passerelle intéressante pour ceux qui ne croient pas encore. Mais il faut faire très attention, chers frères et sœurs. Ce n'est pas mon témoignage qui change les cœurs des gens, mais ils sont comme une sorte d'invitation, de garantie pour la personne qui hésite encore à se décider. Mettons-nous un peu à la place de Marie et de Joseph, qui ne savaient pas encore exactement ce qui va être cet enfant au départ. Ils l'ont su, mais ils ne savaient pas encore en détail. Mais ils ont reçu l'appel de l'ange Gabriel, mais ils ne savaient pas encore rien sur le programme, le plan de Dieu, ce qui va se passer pour cet enfant. Mais quand ils ont vu les bergers venir, personne n'a envoyé une invitation, une carte comme quoi Jésus est né. Tout à coup, des bergers qui arrivent, qui débarquent et qui savent même l'adresse exacte. Or, personne ne les a prévenus. Ensuite, les mages, des rois. J'ose penser que le couple a compris que cet enfant qui est né n'est pas n'importe qui. Ces deux témoins annoncés dans notre péricope de ce matin ont une particularité par rapport aux mages et aux bergers. Les derniers ici, les bergers, sont venus pour voir ce qu'ils ont entendu par l'intermédiaire des anges. Et les mages aussi sont venus pour voir ce qu'ils ont su comprendre à travers leurs études sur les astres. Mais ici, les deux sont venus pour vérifier la véracité de ce qu'ils ont entendu par la prophétie. Cependant, Anne et Siméon attendaient ce qu'on les a déjà montré dans la foi. La preuve, ils l'ont tout de suite reconnu quand la famille arriva au temple. Ils ont reconnu l'enfant. Et ce n'était pas juste pour voir l'enfant, ce n'était pas une curiosité, contrairement aux bergers et aux mages. Nous aimerions voir l'enfant. Mais pourquoi ils sont venus? Pourquoi ils étaient là? Pour apporter un message en plus sur cet enfant. Et le message en question, la voici. Dieu a destiné à cet enfant à causer la chute, le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les anges s'opposeront. Les gens s'opposeront. Et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Et quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. Vous imaginez cette phrase. Très tôt, Marie a su la mission qui attendait cet enfant, qui est loin d'être facile. Quand nous rendons visite à un couple, une famille qui vient d'avoir un bébé, qu'est-ce que nous ne faisons pas pour trouver une belle carte où il y a de belles phrases pour formuler nos meilleurs vœux? On souhaite le bonheur pour l'enfant. Mais ici, c'est une drôle d'annonce. Et en plus, ce qui est bizarre, ce Siméon a attendu toute une vie rien que pour annoncer cela. Vous imaginez? Tout ça pour ça. Cela signifie que cet enfant est né pour les autres. Depuis sa naissance, l'enfant n'a pas eu quelque chose pour lui. Il n'est pas là pour faire plaisir à Marie et Joseph. Cet enfant ne leur appartient pas depuis le premier jour. Et déjà là, Marie est consciente que cet enfant leur échappe totalement. Même chose avec la déclaration d'Anne. Il sera la rédemption pour son peuple. Étymologiquement, rédemption, ça veut dire il sera la rançon pour libérer son peuple. Donc, il est encore donné à donner pour les autres. Cet enfant est né pour les autres. Et avec ces paroles de Siméon et d'Anne, Marie et Joseph sont aussi dépossédés de Jésus. Et d'ailleurs, le message de Noël est effectivement cela. Même le Père au ciel. Lui, il a dû le donner. Il a envoyé son fils pour les autres. Voici mon fils bien-aimé. Et il l'a donné au monde. C'est son fils unique, mais il l'a donné pour les autres. Marie et Joseph savaient aussi que Jésus n'est pas leur enfant dans le sens d'affiliation. Pour faire prospérer le nom familial, et si nous continuons dans cette logique-là, même avec ses disciples, ils étaient avec eux que pendant 3 ans. Mais après, il doit les quitter, sinon le monde entier ne saurait le connaître. Et ainsi de suite, le cycle de la vie de l'Église. Là où je veux en venir, frères et sœurs en Christ, est que l'Évangile est comme un feu que nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes. Elle nous oblige, elle nous force à aller vers les autres et à partager cela. Donc ce n'est pas logique, ce n'est pas normal s'il y a un enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu, mais qui reste passif et qui ne vient pas pour partager cette lumière qu'il a reçue. Cette lumière ne te laissera pas tranquille là où tu es dans ton coin. Pierre l'a dit clairement. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, et ça ne s'arrête pas là, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Voilà pourquoi. Il ne suffit pas d'être sauvé. Ah, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, alléluia, amen. Et ça reste là. Celui qui a été appelé de l'obscurité vers la lumière, il nous oblige à proclamer cette œuvre magnifique. Et ce passage de l'obscurité à la lumière nous pousse automatiquement à proclamer les œuvres de Dieu, comme l'aveugle. Rappelez-vous l'aveugle qui a vu la lumière pour la première fois. Même si on le dit, il ne dit rien. Il ne pouvait pas s'en empêcher de parler à ceux qui lui ont posé des questions. C'est un peu comme nous. Dès qu'il y a le soleil, surtout maintenant, vous voyez, il n'y a que du gris. Dès qu'il y a le soleil, quel est notre premier réflexe? On ouvre très grand nos fenêtres. Voilà, pour que la lumière transperce, pour que la lumière soit partagée pour nos enfants, pour nos amis. Voilà, c'est le réflexe. C'est ça la force de la lumière qui ouvre les portes. Et voilà ce que Jésus a dit. C'est vous maintenant qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être caché. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. L'année 2018 qui va venir, soyez des lumières pour toute la nation. Amen.